Docteur Jean-Pierre Courrèges, pour ce Radio Barque essentiellement consacré à la santé, ça ne surprendra personne. Un petit mot quand même, alors c'est pour, je dirais pas pour rire, mais pour le plaisir. Le salon du chocolat que vous organisez ce week-end en tant que président du club Kiwanis. Alors, oui. Le chocolat, on dit parfois, attention, faut, si on en mange trop, on va être malade. Que dit le toubib Jean-Pierre Courrèges?
Ah, c'est une question piège. oui, en tant que, juste pour resituer le contexte, en tant que, effectivement, président du Kiwanis Club Carrefour du Sud, nous organisons pour la quatrième fois le salon du chocolat. Alors, c'est le salon du chocolat et de la gourmandise. C'est au Palais du Travail, ce samedi et ce dimanche. Et vous savez, un club service, ça gagne un peu de sous à l'occasion d'actions, comme on le fait. Et on reverse l'intégralité des sous pour des actions. Alors, le club Kiwanis s'est surtout centré sur l'enfance. Et tous les bénéfices que nous allons retirer seront reversés au service de pédiatrie de l'Institut du cancer de Montpellier, de l'ICM de Montpellier. Alors pourquoi? D'abord parce qu'on aide déjà aussi le centre hospitalier de Narbonne, Avdaïm, on a déjà pas mal d'actions locales. Cette fois-ci, le centre hospitalier, parce que il semble bien qu'il y ait une augmentation franche, controversée d'ailleurs, des cancers pédiatriques.
C'est-à-dire chez les enfants.
Chez les enfants, ouais. Et il y aura le mois du cancer pédiatrique, ça sera en septembre, dans lequel on aura plusieurs conférences. Et on pense que le directeur de l'ICM viendra nous faire une conférence sur Narbonne, on l'espère. Donc là, je suis en train de voir avec lui et ça sera sans doute organisé au Synode.
Voilà. Alors, un salon du chocolat, pour encourager les gens à manger du chocolat.
Tout à fait.
Alors, jusqu'où peut-on aller sans en manger trop?
Ah ben, c'est toujours le point. On en parlait sur les semaines d'information de santé mentale. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir aussi se faire plaisir. Il faut savoir aussi lutter contre... la déprime, on dit que le chocolat est un très bon antidépresseur. Mmh. Alors le tout, c'est comme tout, le tout c'est de le faire avec modération. C'est évident que si vous descendez vos 100 grammes ou 200 grammes de chocolat tous les jours, ça fait un peu beaucoup sur le sucre, sur le poids. C'est pas ce qu'il faut recommander, mais on approche de Pâques, c'est la bonne période en plus. Donc il y a le côté sympathique et pas dangereux pour la santé à partir du moment où c'est fait avec modération, c'est comme tout.
Voilà, modération, ça veut dire combien de grammes pour un docteur?
Ah, écoutez, je pense que déjà deux carrés de chocolat, si c'est tous les jours, c'est déjà bien. C'est...
Oui, voilà, mais voilà. C'est indicatif.
Voilà, c'est une indication. Bon, après le reste, c'est évident que si vous êtes diabétique, on ne va pas vous conseiller de. Si vous suivez un régime pour le poids non plus.
Effectivement, voilà. Et c'est l'ancien diabétologue qui parle, évidemment. Alors, revenons au sujet qu'on a abordé dans une première partie, et encore une fois, qui est très important parce qu'il concerne absolument tout le monde aujourd'hui. Oui. Dans ce pays, donc, de France, aujourd'hui, on a parfois, et même assez souvent, du mal alors à trouver un médecin. Généraliste, son praticien habitude, mais aussi parfois des spécialistes, ou même si on les trouve, il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous. Alors comment en est-on? On parle de, on a employé, on, pour arriver à cette situation, on a dit il y a quelques années, le numerus clausus, une belle formule pour dire la limitation de la formation des étudiants en médecine, est responsable. Ça a joué un rôle quand même important.
Alors, ça joue un rôle fondamental. Dans les années 70, on n'avait pas de problème entre la densité des habitants et la densité médicale.
On avait le bon ratio.
On avait un bon ratio. Et puis, l'idée qui est, moi, j'ai vécu cette période-là, c'est que finalement, on coûtait trop cher. On coûtait trop cher, donc on n'avait pas besoin de tant de médecins parce qu'ils multipliaient les actes.
Oui, bon. Et alors si vous me permettez une remarque, oui. L'année 1970, c'est l'arrivée aussi massive des énarques sur le marché du gouvernement.
Il doit y avoir un rapport. oui, je pense. Je pense comme vous. Et si vous voulez, à partir de, donc, on va dire, grosso modo, la moitié des années 90, on a commencé à serrer la vis. Serrer la vis au niveau des hôpitaux, c'est-à-dire que lentement et sûrement, on avait de moins en moins de personnel. Serrer la vis au niveau des étudiants, avec un quota, si vous voulez, qu'il le fallait respecter. Par exemple, moi, mon service validait trois internes de médecine. Deux de médecine générale et un de spécialité, ou de la diabéto ou de la médecine interne, donc c'était universitaire. Et le problème, c'est qu'avec au fil du temps, les postes, alors qu'ils étaient pris d'assaut au départ, étaient de moins en moins pourvus.
Oui, voilà.
Et c'était pareil donc pour les postes une lente dégradation, voilà, si
une
vous voulez.
Une limitation volontaire, calculée, délibérée. Quoi.
Tout à fait délibérée.
Pour des raisons purement technocratiques.
Technocratiques, financières. Je rappellerai quand même que le PIB consacré à la santé, c'est 8%. Dans les autres pays européens, c'est 12%.
Ah oui, voilà, un chiffre éloquent. Voilà,
ça, c'est clair, c'est net. Et quand le Ségur de la santé, j'applaudis, je l'ai dit à M. Ricordeau, directeur de l'ARS, hein, c'est une très bonne démarche. Il faudra continuer le Ségur, il ne faut pas s'arrêter là. Mais si vous voulez, le Ségur de la santé, c'est 19 milliards qui ont été donnés aux hôpitaux pour remettre à flot, pour pouvoir, etc. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 19 milliards manquaient avant.
Oui, c'est un rattrapage.
Quelque part, mais j'applaudis quand même.
Oui.
Faut quand même dire les choses. C'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin, mais il faudra continuer. Alors, sur le plan désert, comme je vous disais, les déserts sont quand même... C'est surtout dans les périodes... Mais alors c'est surtout l'Hexagone, hein, le désert. Moi, je ne crois pas trop aux déserts médicaux en ville. Je dirais de l'accessibilité aux soins, ce qui n'est pas le désert médical. Un désert médical, ça peut être le fin fond des Corbières, la Haute-Vallée de l'Aude, ou certaines régions que je connais bien de Corse, dans lesquelles, effectivement, vous n'avez pas le médecin immédiat. En tout cas, il est à plus de 30 minutes. Ça, oui, on peut commencer à dire, tiens, il n'y a plus de pharmacie, tiens, on ne trouve plus de dentiste, tiens, on ne trouve plus de médecin. Là, oui, vous commencez à effectivement rentrer dans ce qu'on pourrait appeler les aires médicales. Mais en fait, quand on reprend les statistiques, par exemple dans l'Aude, il n'y a que 2% de la population. Alors, on dirait 2%, c'est quand même 2% pour les personnes, hein, qui sont à plus de 30 minutes d'un toubib. Alors, parlons plutôt de l'accessibilité... aux médecins ou aux infirmières. Donc la première des choses, comme je le disais, vient de ce problème, mais pas que uniquement du problème du nombre. Il y a le nombre et puis il y a la répartition.
C'est-à-dire trop d'un côté et pas assez de l'autre.
Exactement. Par exemple, si vous voulez, si vous prenez le département de l'Aude, vous avez, si ma mémoire est bonne, une densité à peu près 59... la répartition, si vous voulez, au niveau kilomètre carré des habitants est très variable entre le littoral et la montagne. Hein. C'est du genre 59 d'un côté et 25 de l'autre. Bon, si vous prenez le nombre des médecins, leur répartition va être à peu près identique, c'est-à-dire une concentration importante au niveau des grosses villes, comme Narbonne ou Carcassonne, au niveau du littoral, mais ça commence à être battu en brèche, et avec, si vous voulez, un nombre beaucoup plus limité dans les territoires massifs montagneux et massifs, tout simplement. Donc il y a la répartition également, ça se pose essentiellement au niveau des médecins généralistes, c'est un peu différent au niveau des spécialistes, avec un autre phénomène. Le spécialiste a beaucoup de mal. Alors on le voit dans mon domaine, en endocrino, on l'a vu en rhumato, on le voit en dermato actuellement, a beaucoup de mal à sortir de sa faculté d'origine. Et la plupart des spécialistes, une bonne partie en tout cas, vont s'installer dans les 30 kilomètres autour de leur faculté d'origine.
Ah oui, oui, oui.
Donc, alors, c'est un autre phénomène.
Concentration, ça. Oui.
Donc il y a une concentration cette fois-ci de spécialistes, plus que de généralistes, hein, mais plus de spécialistes, et qui ont du mal à venir sur les villes moyennes et a fortiori sur les petites communes, mais déjà au niveau des villes moyennes.
Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer pour améliorer cette situation? Déjà, alors le numerus clausus, apparemment le gouvernement y a mis fin.
Alors,
mais il faudra du temps pour le ressentir.
Oui, disons que c'est moins limité qu'avant. Déjà depuis le début des années 2010, on a commencé à sentir le vent du boulet. Donc, on a commencé à ouvrir les vannes, mais pas d'une manière très large. Alors, là-dessus, il faut être quand même modéré. C'est-à-dire que il faut ouvrir largement, mais il faut quand même qu'une qualité des étudiants qui sortent des facultés. On ne peut pas non plus donner le diplôme de médecin à tout le monde.
On ne peut pas le galvauder.
Non, pas le galvauder. On compte actuellement que l'ouverture des vannes, en quelque sorte, permettra d'avoir un nombre suffisant de toubibs entre 2025 et 2030, avec une médiane vers 2027.
Oui, voilà.
Donc on a encore 5 ans à souffrir,
en quelque sorte. Il faut patienter, voilà. Effectivement, il faut patienter. Quant à la répartition, alors certains parlent de contraintes envers les médecins, d'autres sont plus libéraux, justement.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison.
Et on va conclure là-dessus. Que pensez-vous qu'il est possible de faire, docteur Courrèges ?
Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Beaucoup de choses sont faites, notamment dans l'attractivité. On parle d'attractivité. Attractivité avec l'ARS, qui offre des contrats spécifiques d'installation dans des zones prioritaires.
Oui, donc déjà.
Déjà. Le département fait beaucoup.
Oui.
Il investit également sur ce plan-là.
La région envisage aussi.
La région envisage, effectivement, d'embaucher de faire des centres dans des vrais déserts médicaux. Avec des centres médicaux, c'est les communes qui participeraient en ce qui concerne le local, les fluides, etc.
Oui, beaucoup de communes ont déjà des maisons de santé.
Tout à fait. Alors, des maisons médicales de santé, qu'elles soient... là, ça serait des maisons plutôt salariées, si vous voulez, contrairement à d'autres maisons de santé qui, elles, sont libérales.
Oui. Mais enfin... Mais les deux coexistent.
Les deux coexistent très bien. Il n'y a aucun problème. Et les deux fonctionnent très correctement. Et donc, la région va investir. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui existe. Alors, le deuxième point, c'est l'attractivité. Une analyse de l'URPS et de mon ami Audrey Boras, hein. C'est l'attractivité. C'est
donner envie aux médecins.
Bah, donner envie, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des crèches? Est-ce qu'il y a des terrains de sport? Est-ce que...
Oui, la qualité de vie, quoi.
La qualité de vie. Est-ce qu'on a des spectacles pas trop loin, etc. Est-ce qu'on peut faire regarder les enfants? Ça, c'est également un point. Il y a aussi un point, moi, je l'ai vécu au niveau hospitalier, c'est d'avoir suffisamment de place. Imaginez que vous ayez une dame qui voudrait venir, mais le mari travaille ailleurs et son poste est déjà prêt, ben, la dame ne vient pas. Moi, je l'ai connu sur
les raisons familiales.
Des raisons familiales, mais qui se conçoit bien. Mais c'est un peu dommage parce que, si vous voulez, vous avez quand même d'un côté une volonté de vouloir s'installer, on ne peut pas. Donc ça, c'est le côté, de ce qui peut exister déjà. Alors, il y a plusieurs, vous savez, demandes actuellement... On le voit dans le contexte présidentiel actuellement, dans lequel il y a eu quelques de possibilités de demander une quatrième année d'internat qui pourrait se passer, entre guillemets, à la campagne. Bon, c'est-à-dire dans des territoires de santé. C'est pas une mauvaise idée. Je pense que ça pourrait... Il faut trouver, si vous voulez, une solution qui permette de gagner 2027, c'est-à-dire 5 ans.
Voilà, de patienter et de...
Voilà, c'est-à-dire que, si vous voulez, de pallier. Alors, après, ça, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que ce sera appliqué? Pourquoi pas? Ça pourrait se faire sur le volontariat. Déjà, bon, si vous avez sur 200 étudiants, ne serait-ce que 30 qui sont volontaires, ben, ça peut peut-être régler le problème.
Voilà de quelques mesures, donc.
Quelques mesures qu'on pourrait prendre. Alors après, il y a la coercition.
Êtes-vous favorable à ça, en deux mots? Il va falloir conclure.
Je suis favorable au dialogue.
Au dialogue, oui.
Je suis favorable au dialogue, je suis favorable à la responsabilité des gens, à la responsabilisation des corps de santé. Je veux dire par là que j'ai de mon métier une certaine vision qui est des droits, mais aussi beaucoup de devoirs, et que j'ai appliqué toute ma vie. J'ai fait quand même 40 ans de garde, pour vous donner un ordre d'idée. Je pense qu'il faut laisser les pouvoirs publics discuter avec leurs représentants. Et je pense qu'ils trouveront une solution. Maintenant, s'il n'y avait aucune possibilité avec notamment des accès généralistes. Alors, c'est pas tellement l'accès généraliste, mais l'accès spécialiste à 6 mois, je dis que ça n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, il faudrait effectivement envisager peut-être une sorte de quota d'installation momentanée, au moins, sur certaines villes de manière à ne pas déprimer d'autres villes. Voilà. Je veux dire par là, on peut pas demander aux Narbonnais lambda, s'il n'y a plus de dermatos ou pas assez, de faire, ou si les dermatos sont à 9 mois de rendez-vous, de faire, alors je prends le dermato, mais ils ne se sentent pas visés, de faire 200 km pour montrer un bouton.
Oui, voilà. Donc, enfin, un certain nombre de pistes que vous avez tracées. Merci en tout cas, docteur Courrèges, d'avoir fait, alors, le point momentanément, on le refera probablement encore, sur les problèmes de santé aujourd'hui et surtout les actions que sont menées par les élus dont vous faites partie. Merci encore, docteur Courrèges. Le prochain invité sera le sénateur Sébastien Pla. La semaine d'après, je recevrai la présidente du département de la région, Hélène Sandranier. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci, docteur.
Merci à vous.